je reçois là tout de suite maintenant Rémy Nguyen Van qui vient nous parler de Fractal, un bureau d'études spécialisé dans la cartographie, pour le dire vite, hein, et créé en mai 2016 sur la montagne Limousine. Salut Rémy.
Salut Lorraine, d'abord merci de m'avoir invité et on va parler un petit peu de cartographie. J'ai vu la petite dédicace qu'il y avait à ma destination dans le jeu du dictionnaire.
Mais incroyable, comment as-tu soupçonné que c'était fait pour Fractal? Oui, je l'avoue, parfois, comme ça, il me prend des petits délires d'auteur. J'essaye de construire un magazine cohérent, ça m'arrive. Je voulais aussi, moi, faire une petite introduction et souhaiter un joyeux anniversaire à Fractal. Un petit peu en retard, donc, mais un an, ça se fête quand même. Un an,
oui.
Ça se fête ?
Bah oui, un an ça se fête, c'est toujours une première étape de bilan en fait, quand on se lance dans une entreprise, comme ça c'est une aventure humaine, on parlera je pense un petit peu de tout ce qui nous a conduit à se lancer là-dedans.
Ça c'est sûr.
Et je pense que ce qui est important c'est aussi de voir tous les éléments forts qu'ont constitué notre première année. Et notamment de travailler ensemble, parce que Fractal, c'est aussi un collectif qui se veut d'abord humain. Et donc, il y a beaucoup de structuration, en fait, à faire pour travailler en équipe, quoi, qui demande quand même un apprentissage, quoi, quotidien.
Bon, on en reparlera un peu plus tard. Moi, j'aimerais qu'on parle de géographie peut-être plus généralement tout de suite. Pour ce que j'en ai connu à l'école, le point central de la géo, ce sont les cartes. Et donc je me suis dit, j'invite Rémy, c'est un géographe, donc c'est un cartographe. Et j'ai été sur le site internet de Fractal et j'ai lu tes deux spécialités, géomatique et base de données. Et là, bon, j'étais un petit peu voilà, sur le derrière, comme on dit. Et du coup, avant de te demander ce que c'est que la géomatique, j'ai envie de te demander ce que c'est la géographie finalement, si on peut dire ça en quelques mots, pour que ce soit, voilà, ça regroupe de la base de données, de la géomatique, de la cartographie.
Alors, en une seule phrase, la géographie, c'est tout ce qui est attrait, en fait, à la dimension spatiale. Donc, ça peut se décliner, en fait, dans différents domaines. C'est pour ça que ça peut paraître très varié. Et par rapport à ce que tu disais sur ce que les gens peuvent percevoir de la géographie à l'école, en fait, à l'école, c'est beaucoup de l'étymologie, c'est-à-dire qu'on apprend quelque chose qui relève plutôt de la culture générale, de savoir localiser les régions, les départements, les grandes villes, les cours d'eau, ce genre de choses. Mais ce qu'on apprend après à l'université, c'est très différent, en fait. On apprend vraiment à appréhender les phénomènes spatiaux, et ça a conduit, en fait, à des disciplines qui sont très différentes, dont la cartographie, mais pas uniquement. Quand, en fait, on travaille plus sur du social, on parle de la géographie sociale, il y a la géographie de la santé, par exemple, sur tout ce qui est épidémiologie. Il y a des courants très différents, en fait, en géographie. On dit que c'est une science multiparadigmique. Donc, ça veut dire que on n'a pas un seul angle de vue, en fait, dans la discipline. C'est... Alors, dans d'autres disciplines, ça existe aussi. En physique, il va y avoir des choses qui porteront sur la relativité, ce genre de choses, et puis des écoles mineures. En géographie, il y a beaucoup d'écoles, en fait, et des écoles qui cohabitent, en fait. Donc,
mais c'est des écoles qui sont liées à un domaine précis de recherche ou d'objet. Enfin, la géographie, c'est quand même une manière de poser un regard, quelle que soit la manière dont la géographie dont la discipline est utilisée.
Alors c'est oui, c'est porter un regard sur le monde qui est particulier. Faut dire que il y a un peu une volonté aussi de représenter le monde et de le comprendre dans la géographie qui peut conduire aussi à des choses très très étranges. Et notamment la géographie s'est un peu discréditée au XXe siècle à cause de ses liens. Notamment avec le nazisme, et oui.
Comment ça ?
Parce que les nazis étaient grands adorateurs en fait, de la géographie, et par exemple les notions d'espace vital, ce genre de choses, c'est des notions de géographie. Alors aujourd'hui, on va en parler différemment, on va utiliser d'autres termes, mais quand on parle d'empreinte écologique, par exemple, c'est aussi une notion qui est proche en géographie, mais qui peut être connectée en fait sur le besoin en fait d'espace pour une population. Voilà. Donc voilà, c'est des concepts très différents. Hein, je ne veux pas faire l'amalgame entre les deux, mais c'est des concepts qui sont tous les deux attrayés à la géographie. Et notamment, il y a un modèle qui a été développé par Walter Kristaller. Alors, on ne peut pas dire que c'est un nazi, mais il a été quand même assez proche du régime. Bon. Et par exemple, c'est un modèle qui dit une ville, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit placée à cet endroit-là par rapport à une autre. Et c'est assez étonnant parce que pour voir aussi que ça a transcendé quand même les courants et tout ça, c'est que quand les Soviétiques, ils ont voulu peupler les régions de Russie qui étaient un peu vides et éloigner quelques opposants en même temps, en fait, ils ont utilisé ce modèle-là pour replacer les villes nouvelles. Donc rien à voir avec nos villes nouvelles, hein. Ça, c'est vraiment une autre envergure. En tout cas, pour dire que la géographie, elle permet aussi d'avoir une vision du monde. Elle porte toujours un discours, en fait. C'est aussi quelque chose qu'on porte au sein de Fractal et qu'on aime ne pas faire oublier. C'est qu'il n'y a pas que la carte IGN, etc. Et il y a aussi des discours qui sont utilisés et employés, notamment en aménagement, qui peuvent faire penser un peu à la même manière que les statistiques, que c'est quelque chose de neutre. Mais il y a vraiment des représentations, en fait.
En fait, la géographie, du coup, serait un outil, et ça peut être à la fois un outil de regard comme un outil de projection.
Alors oui, ça peut être...
Enfin, un outil qui permet de considérer l'existant ou un outil qui permet de projeter des volontés.
En fait, dans l'analyse des phénomènes humains, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en histoire, en fait. Ça fait très longtemps que la discipline de l'histoire existe. Donc la dimension temporelle est très souvent analysée. Et c'est une chose que des intellectuels ont déploré, c'est que la dimension spatiale a été moins travaillée, en fait. D'où la naissance, en fait, des disciplines universitaires de géographie qui sont assez récentes, en fait.
Récentes comment ?
Et ben, c'est en France, en tout cas, c'est début du 20e. On peut dater ça. Donc c'est relativement récent à l'échelle.
Comme la photo.
Et du coup, il y a vraiment ce besoin en fait aussi d'explorer cette dimension nouvelle dans les phénomènes, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient relatifs à la santé, ce genre de choses.
C'est pour ça peut-être que nous, quand on était donc au lycée ou au collège, on a ce qu'on appelle ce bloc histoire-géographie, dans lequel j'ai jamais très bien compris ce qui était de l'ordre de l'histoire, ce qui était de l'ordre de la géographie, puisque une carte de géographie s'analyse souvent en vision d'autres cartes qui ont peut-être été faites à d'autres périodes. Enfin, la dimension temporelle dans l'espace, j'imagine qu'elle est importante aussi.
Bah, elles sont vachement liées, en fait. C'est-à-dire que le problème, c'est finalement, si tu arrives à prendre qu'une seule des deux dimensions, tu ne peux pas avoir l'ensemble, en fait, du phénomène. Après, ça complexifie vachement la lecture. C'est-à-dire que si tu commences à analyser et l'époque sur laquelle la carte a été faite et comment la carte a été représentée, ce genre de choses, ça peut se faire, hein, mais du coup, il faut y prendre le temps. Alors après, il y a des pays, contrairement à la France, qui déconnectent les deux, qui déconnectent l'histoire et la géographie, qui sont deux disciplines différentes. Chez nous, c'est un peu une coquille qui reste depuis très longtemps et qui est encore... une existence réelle, par exemple, pour les CAPES, où la géographie est souvent le parent pauvre.
Oui, il y a quelque chose de très fort comme ça. Et ça fait qu'effectivement, en tout cas, pendant la scolarité, on est confronté à des cartes d'ordre géopolitique, ce en quoi elles sont connectées avec l'histoire, un peu. Et bon, il y a aussi effectivement des cartes qui représentent des données, comme, je ne sais pas, des cartes de densité ou des cartes de production, mais assez peu. Et toujours au plan mondial. Enfin, effectivement, on voit certainement qu'à l'école, on a on embrasse une idée de ce qu'est la cartographie qui est assez pauvre par rapport à l'existence réelle de tout ce qui peut être cartographié.
Bah, d'autant, mais là, je pense que c'est pas propre que à la géographie. C'est-à-dire qu'en histoire aussi, on voit vraiment que des prémices. On voit une forme, il y a une lecture de l'histoire qui est donnée par l'école dans le secondaire, qui n'est pas celle dans le supérieur, où on apprend qu'il y a différents courants, que l'histoire est écrite par les vainqueurs. C'est la même chose pour la géographie. C'est-à-dire que c'est très réduit, en fait. Et en géographie, c'est assez typique. C'est beaucoup de la culture générale, en fait. savoir localiser les choses, qui est important aussi, mais qui permet pas d'appréhender ou de critiquer en fait une carte.
Et alors justement, j'avais envie de te demander qu'est-ce que tu as appris exactement à l'école. Avant ça, je vais te demander quand même ce qu'est la géomatique.
Alors tout à l'heure, je parlais un peu des différents débouchés qui peuvent exister en géographie. Donc il y en a beaucoup qui portent sur l'aménagement, l'environnement, la géopolitique, l'enseignement aussi bien sûr. Et il y a tout ce qui est géomatique. Alors géomatique, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu une science nouvelle, hein. C'est très lié à la cartographie, en fait, c'est la modernisation de la cartographie, si on peut faire simple. C'est-à-dire qu'il y a des cartographes dans les années 70, on m'excusera pour les dates, je ne me souviens plus exactement, qui se sont rendus compte que leur métier avait évolué concrètement, qu'ils faisaient aussi pas mal d'informatique. Et en fait, ils ont fait un mix en fait, entre les deux, entre la géographie et l'informatique, ce qui a donné la géomatique.
D'accord.
Qui est assez employée maintenant. On dit aussi des fois sigiste, mais c'est un peu une transformation qui vient... Un anglicisme.
D'accord. Et donc, ça explique en fait que toi, tu ne dessines plus des cartes à la main, mais avec une souris.
Alors,
une tablette graphique.
Je dessine encore des cartes à la main, mais
donc, tu es géographe aussi.
Mais pas très peu, en fait, en milieu professionnel. Alors, on va voir quand même, nous, on a une particularité sur nos activités qui portent à la fois sur du bénévolat ou sur de l'accompagnement, de l'animation avec les associations qui vont plus se prêter à ce genre de jeu. Mais effectivement, quand on parle de cartes, aujourd'hui, on part beaucoup au niveau de l'ordinateur.
Alors, j'ai traîné un peu hein, sur le site internet de Fractal. J'ai vu qu'effectivement, vous proposez des formations QS, alors QGIS, GRAS, OSM, SIG, OSGEO, PostGIS, PostGRES, comment dire ? Est-ce qu'il faut être un geek aujourd'hui pour faire de la cartographie ?
Je pense que ça peut vraiment aider. Après, c'est un peu comme dans tous les métiers, il y a un vocabulaire qui est propre en fait, à notre activité et qui peut être lié effectivement à l'informatique. Mais là, les choses qui ont été citées...
Qu'est-ce que c'est ?
Ouais, bah, là, il y a un peu un mélange de tout. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des logiciels, des projets, notamment, par exemple, tu as parlé d'OSM, donc de son vrai nom, OpenStreetMap, qui est en fait un peu un Wikipédia de la cartographie. C'est-à-dire que les gens en avaient marre des référentiels nationaux, des structures nationales comme l'IGN chez nous, en fait, qui avait un peu dans les mains en fait, la cartographie. Et ils ont voulu faire une cartographie citoyenne et coopérative. En fait. Et donc, nous, on est vachement ancrés là-dessus. On travaille, nous, on a choisi déjà de travailler que sur des logiciels libres et sur des projets libres. Donc, OpenStreetMap en faisait complètement partie. Et par exemple, quand on accompagne les associations, on va beaucoup travailler justement avec des données qui viennent d'OpenStreetMap, qui ont été renseignées soit par des gens auparavant, soit qu'on les fait renseigner par les associations quand elles ont des thématiques particulières. Ça peut être, par exemple, l'accessibilité. Voilà.
L'accessibilité...
Handicapée, ou ce genre de choses.
Est-ce que... Bon, ça, c'est ce qui concerne les formations. Donc, vous proposez des formations à des outils, à des logiciels libres ou à des plateformes. Du coup, pour former des gens, il faut qu'il y ait des gens qui aient envie de se former. Ça va me faire revenir un petit peu en arrière. Je voulais te demander à quel moment comment la géographie a pris de l'importance pour toi avant de décider peut-être d'en faire tes études supérieures.
Avant les études supérieures. Ça commence à remonter un petit peu là.
Est-ce qu'il y a un jour où tu t'es dit, quand je serai grand, je voudrais être cartographe ou...
Moi, je m'intéressais beaucoup à l'histoire géo. Et en fait, c'est en discutant avec mon prof d'histoire géo, en lui disant que j'aurais bien aimé travailler, en fait, notamment dans l'aménagement, qui m'a conseillé plutôt que de faire histoire, de faire géographie. Par rapport aussi finalement à ce que j'aimais faire dans la discipline, discipline unique. Là. Et j'ai suivi son conseil, quoi. Je me suis essayé et ça m'a plu dès la première année, en fait.
Alors, qu'est-ce qu'on étudie à l'université en première année de géographie ?
Eh ben déjà, on découvre qu'il y a différents courants en géographie.
On y revient, voilà. Ça a l'air très important.
On arrive avec son gros bouquin d'épistémologie, donc c'est un peu les courants qui existent dans une discipline, et on se rend compte que bah, tout ce qu'on a fait en fait en géographie jusqu'à présent, bah, c'est juste de la culture générale en fait, et qu'il va falloir plancher là-dessus pour vraiment avoir un esprit critique sur ce qu'on fait. Et c'est important en géographie parce que même la représentation, il y a une discipline qui s'appelle la sémiologie, donc certains artistes doivent connaître, etc., qui est de savoir comment les gens regardent une carte et qu'est-ce qu'on veut montrer dans une carte. Donc c'est pas un fantasme hein, quand on dit qu'il y a un discours derrière une carte, c'est-à-dire que c'est réfléchi, c'est un travail de longue haleine et c'est ça qui fait l'utilité, en tout cas l'efficacité de la carte.
Oui, bien sûr, il faut rappeler voilà, comment on fait une carte. On peut pas faire entrer tout le réel sur une carte, donc on va choisir ce qu'on va y mettre et comment on va le mettre, et on le reforme, on le remodèle, quoi.
Oui, bah, simplement, en fait, avec les mêmes données, on peut représenter différents phénomènes selon les choix qu'on a pu faire, selon qu'on a fait des points proportionnels, plus ou moins gros, s'il y a beaucoup d'infections ici, ou si on choisit plutôt de représenter ça sous forme de quartier, par exemple en disant « Ah bah, ce quartier-là, il y a un problème, il y a un problème d'épidémiologie ». Bon après ça dépend aussi de la précision qu'on peut avoir, mais ces choix là ils sont pas anodins en fait dans ce que va rendre la carte, et ça va jusqu'à très rationaliser en fait en géographie. Donc après il y a des géographes orthodoxes, enfin, des cartographes orthodoxes pour être exact, et d'autres qui sont un peu plus libres. Nous on est un peu plus libres dans nos représentations, même si on se sert quand même de la base, parce que c'est vrai que c'est intéressant de savoir quand on a une information, comment la représenter de manière efficace. Après, ça va très loin sur le nombre d'icônes, la quantité d'informations, ce genre de choses. Voilà. Nous, on est un peu plus libre sur cette question-là. Mais ça pourrait faire hérisser des poils de certains collègues.
Alors ça, c'est du coup l'ouverture que ça apporte une première année de fac en géo. Je me posais la question de savoir s'il y avait une histoire de la discipline.
Ouais. Bah, en fait, c'est ça, l'épistémologie, c'est une histoire de la discipline, c'est-à-dire qu'on voit tous les courants, mais les courants depuis que ça existe. Alors, on a la chance justement d'avoir une discipline qui est quand même relativement récente, mais aussi on découvre qu'il y a, et ça c'est moi c'est quelque chose qui m'avait vachement intéressé, c'est qu'il y avait des cartes avant qu'il y ait des cartographes.
Est-ce que tu peux nous raconter ça ?
Voilà, je pense que c'est assez intéressant. Avant qu'on conceptualise, qu'on maîtrise complètement les choses, en fait, les gens, ils faisaient des cartes dès le départ parce qu'ils en avaient besoin simplement. Mais aussi, il y a tout le côté représentation qu'on a un peu oublié en cartographie, qui a été une des premières choses qui a été faite en cartographie. Et notamment, les premières, en fait, elles avaient une vocation religieuse. C'était ce qu'on appelle des cartes hantées, qui étaient des représentations du monde, en fait. On a notamment un peu des justifications de l'esclavagisme, ce genre de choses. Bon, pas très, très intéressant. Mais, enfin, pas intéressant au sens idéologiquement parlant, j'entends. Mmh. Mais ça montre aussi le discours quoi, qui était déjà porté à cette époque-là. Et là, on parle de trucs qu'il y a 2000 ou 3000 ans. Hein. Bon, là, ça remonte loin. Après, il y a des cartes qui étaient beaucoup plus utilisées, qui étaient les cartes de navigation. On était très tôt, ce qu'on appelle les portolans. Et pour ceux qui aiment vraiment le côté graphique des cartes, c'est des cartes qui sont géniales parce qu'à la fois, elles sont assez rationnelles parce que tu en avais besoin. Donc, il y avait des courants, il y avait des ports, il y avait des choses comme ça. Et à la fois, elles ont un côté graphique, en fait. C'est-à-dire que les noms des ports constituaient la côte. Et il y avait aussi des éléments de l'imaginaire, en fait, des marins, en fait.
Oui, des monstres.
Voilà, il y avait des endroits, c'était les îles, les trucs, les sirènes à éviter, ce genre de choses. Donc, c'est assez drôle à voir. Et puis, bon, après, on a un peu une évolution qui conduit quand même à un peu maîtriser, en fait, la carte. Mais ce qu'on ne se rend pas bien compte, c'est que avant le... Alors, on m'excusera aussi des dates, là, je n'ai plus trop les dates en tête, mais le 16e ou le 17e, en fait, même les rois, ils avaient du mal à savoir exactement quel était leur territoire. Alors, ils savaient qu'ils avaient tel comté, tel machin, mais ils ne savaient pas exactement quelle était la frontière, à part quand c'était une frontière vraiment naturelle, comme une montagne, ce genre de choses. Mmh. Mais on peut se poser la question dans des plaines, par exemple. C'était beaucoup plus flou que ce qu'on pourrait s'imaginer. C'est-à-dire, ah oui, mais dès le 9e siècle, ils connaissaient exactement le territoire, etc. Ce qui faisait aussi que des fois, quand il y avait des invasions, ce genre de choses, il y a des gens qui ne savaient pas trop s'ils avaient été envahis,
de quel côté ils étaient.
C'était une réalité, en fait, à l'époque. Et aussi parce que le pouvoir central était un peu moins fort aussi.
Oui, la géographie, c'est aussi peut-être une science de propriétaire.
Alors oui, la géographie, ça peut être une science de propriété. En fait, il y a un pamphlet assez célèbre en géographie qui a été écrit qui s'appelle « La géographie » ou « La cartographie », je ne sais plus. Ça sert d'abord à faire la guerre. C'est aussi, les cartes en fait, aussi, sont emprunt en fait, d'un pouvoir très dominant. Donc nous, on est dans une approche de, aussi essayer de, en fait, d'appropriation du savoir populaire, c'est-à-dire aussi de proposer aussi aux gens de se saisir en fait, de ces outils. Parce qu'en soi, ils ne sont pas mauvais, mais ils ont été développés par des gens qui avaient des intentions particulières.
D'où votre recours à des logiciels libres, à des je trouve pas mon mot, donc je vais dire un wiki, à des plateformes participatives.
À des projets coopératifs.
Des projets coopératifs, merci beaucoup Rémi. Et est-ce qu'il y a un courant précis de la géographie qui se rapporte à cet état d'esprit qu'on retrouve chez Fractal ?
Oui, ça peut exister un peu dans la géographie critique qui a commencé dans les années 70, quelque chose comme ça, un peu dans les mouvements post-68. Après, la manière dont la pratique, ce genre de choses, c'est très différent en fait, entre l'entrepreneuriat et la discipline universitaire. En fait, y a aussi une réalité qui fait que des fois, tu es aussi obligé de prendre les sous où ils sont. Voilà, ça veut dire ce qui est. Et puis aussi, il ne faut pas être dogmatique non plus. C'est-à-dire que ça te permet aussi de travailler avec des gens, de les rencontrer, plutôt que d'en faire des images.
Oui, bien sûr. Et peut-être aussi d'avoir un vocabulaire commun.
De comprendre, en tout cas.
Tout à l'heure, tu disais que la géographie est une science qui a 100 ans, mais les cartes datent de bien avant, même les cartes de navigation. Il y avait des cartographes avant qu'il y ait des géographes ou...
En fait, ils ne se réclamaient pas forcément de ça, mais c'est-à-dire qu'ils en avaient besoin, donc ils le faisaient.
En fait, c'était les usagers qui faisaient les cartes. Par exemple, les cartes de navigation, est-ce que c'était des astronomes ou des marins qui les faisaient ?
C'est les marins, ils n'avaient pas... J'imagine bien qu'à l'époque, ils n'avaient pas beaucoup de gens pour
d'imagerie satellite.
Ouais. Je pense que c'était le navigateur qui faisait ça chez eux. Et d'ailleurs, dans la navigation, il y a aussi beaucoup de cartographie. Moi, j'ai travaillé dans le domaine maritime. Donc
tu es bien au courant. Alors, on a quand même beaucoup, beaucoup parlé de géographie de manière générale et on a pas mal évoqué Fractal, mais on n'est pas rentré dans le vif du sujet quand même. Depuis le début, tu dis « nous ». Et collectif, mais moi sur le site j'ai vu que vous y étiez un duo, alors c'est qui Fractal ?
Alors on est un duo mais on est aussi un collectif, c'est-à-dire qu'on ne s'interdit pas de s'étendre en fait dans le temps. Qu'est-ce que ça implique ? Ça veut dire qu'on a une charte collective qu'on a fait dans le cadre d'accueil de population, d'accueil de gens dans notre collectif. En fait on ne veut pas forcément être que en duo tout le temps. Parce que c'est aussi des valeurs, quoi, Fractal, dont on a un petit peu parlé, puisque là, on a parlé un peu du côté logiciel libre, du côté savoir populaire, en fait, comme pour dire un peu autonomie. Il faut développer un petit peu autonomie, c'est-à-dire aussi c'est qu'on essaye de rendre nos clients autonomes sur les technologies qu'on leur donne. C'est aussi un des avantages de travailler dans du libre, c'est-à-dire qu'ils peuvent continuer aussi à travailler sur cet outil sans être dépendants de nous, en fait. Donc il y a d'autres gens qui travaillent sur ces outils et c'est ça aussi qui permet qu'ils soient autonomes, quoi. Et aussi, dans nos valeurs, on a aussi un truc de simplicité. C'est-à-dire qu'on essaye de travailler avec des structures de petite taille, de taille humaine, on dira.
Ce qui est favorisé du fait de votre implantation, certainement.
Voilà. Ça rejoint notre implantation. Je pense que j'en reparlerai un petit peu après. Et du coup, on essaie de leur proposer des solutions qui sont aussi à leur dimension. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire une grande usine à gaz. Ça ne servit à rien pour une collectivité de 700, 800 personnes, en fait. Elles n'attendent pas d'avoir un logiciel qui fait tout, ou même d'avoir des gens qui sont complètement qui sont complètement dédiés à ces questions-là. C'est pas possible, en fait, ils n'ont pas les moyens pour avoir une personne qui fait ça. Donc c'est aussi être confronté à cette réalité-là, c'est que les petites structures, bah, notamment les petites mairies par exemple, bah, elles ont 50 personnes qui sont autour d'elles, etc., qui leur demandent oui, plein de trucs, et puis ils sont deux, trois, oui. Et certains maires qui ont aussi un travail dans les petites structures, un autre travail que celui de maire. Et du coup, bah, on travaille souvent avec les secrétaires de mairie. Et donc voilà, après, il faut savoir aussi que les gens sont plus ou moins à l'aise parce que c'est beaucoup des outils informatiques, donc on s'adapte à ça. C'est un défi de tous les jours. Hein. C'est pas le public le plus évident. Si on avait voulu vraiment travailler avec des publics plus évidents, on aurait cherché à travailler avec des plus grosses structures, qui ont des moyens, qui ont des services de cartographes, ce genre de choses.
Ça se voit aussi sur votre site internet où vous avez tout un onglet boîte à outils. Et on sent en le visitant que cet onglet est réellement là pour ça, pour faire du suivi, pour peut-être rappeler 2-3 notions vues en formation, pour présenter un projet collaboratif.
J'irai même plus loin, c'est-à-dire que Fractal est un projet un peu collaboratif, en fait. On essaye de documenter, mais publiquement, en fait, les travaux qu'on fait pour qu'ils soient accessibles aussi aux autres. Ce qui n'est pas un choix facile hein, quand on fait une entreprise, parce que ça veut dire aussi, c'est un peu comme si on n'avait aucun secret industriel. Alors bon, selon les contrats, on est des fois obligé de on ne peut pas tout mettre. Hein, il y a des clauses de confidentialité qu'on ne peut pas... Mais on essaie toujours de partager au moins une partie quand on a le temps, parce que ça prend aussi du temps de partager ce genre de choses. Hein.
Ça, c'est sûr.
Et donc aussi sur la dimension locale, en fait, c'est aussi une aventure qu'on a voulu faire sur la montagne Limousine.
Tu viens d'où, toi ?
Moi, alors du coup, à la base, j'ai grandi dans la Beauce. J'ai bien bougé, en fait. J'ai fait mes études à Rouen et Paris. Et j'ai vécu assez longtemps en Bretagne. Et en fait, du coup, mon associé, lui, était de la même formation que moi à la base, en fait. On a tous les deux fait notre première année de licence où on a découvert plein de cartes ensemble. Et puis, on se connaît depuis longtemps. Et il m'a dit, j'aimerais bien me lancer dans quelque chose ici. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors, c'était pas une évidence au départ parce que moi, j'étais en CDI, j'avais une bonne place, je gérais une petite équipe. En fait, dans mon domaine, c'est quelque chose... c'est bien, en fait. À mon âge, je ne suis pas bien vieux. Je suis pas sûr à dire. J'approche la trentaine, mais du coup, c'était déjà il y a quelques années. Donc, je me suis dit...
On peut dire que tu avais réussi.
On peut dire ça. Après, on peut toujours réussir mieux. Voilà, mais... on va dire que j'avais atteint ce que beaucoup de cartographes ou de géomaticiens ils voudraient atteindre au moins au milieu de carrière quoi. Mais moi j'avais fait le tour dans mon activité qui était très intéressante hein, je me disais ouais cette aventure humaine là j'aimerais bien la vivre aussi quoi. Et du coup j'ai pris mes cliques et mes claques et puis je suis venu. Bon, ça a pris un peu de temps parce qu'il faut quand même faire de l'administratif et tout ça, et puis négocier, et puis pas partir non plus en frappant la porte. C'était aussi un choix de venir s'installer ici, de vivre sur le plateau avec une vie associative assez prenante quoi.
Toi, tu connaissais quand même le plateau auparavant ?
Alors, je connais le plateau depuis assez longtemps, en fait, parce que j'ai une partie de ma famille qui vient de Creuse aussi. Aujourd'hui, j'occupe une maison de famille. Bon, après, c'est vachement loin. C'est-à-dire que dans la famille, on a beaucoup bougé. Moi, je n'ai pas du tout été élevé en Creuse. Je connaissais, j'étais déjà venu. Puis j'étais venu voir mon associé aussi assez régulièrement. Voilà, je savais où je mettais les pieds, quoi. C'était pas une découverte complète. Après, c'est toujours différent de juste passer et de vivre les choses, quoi. En tout cas, dans la vie d'entrepreneur, ce qui est aussi assez intéressant, c'est la liberté que ça permet de choisir en fait, son emploi du temps, d'être capable de dire « Ah bon, là c'est tout booké, et puis je vais pouvoir faire un truc pour une assoce, ça m'intéresse. » Je pense aussi ce qui est intéressant dans notre lancement, c'était aussi d'expérimenter. En fait. On s'est dit « Moi, mon boulot, en fait, je le maîtrisais. » Mais du coup, il n'y avait plus de défis techniques. Là, voilà, c'est aussi un peu un rêve de geek, tu vois. On s'est mis à travailler avec du drone, par exemple. Voilà, c'est bien. Et alors, je sais pas, Lorraine, si t'as lu l'article sur le drone, mais je sais pas, je suis assez fier.
Non, j'ai malheureusement pas lu celui-là.
Et donc, j'ai retranscrit un peu l'engouement. Tu dis, ah, je veux travailler avec du drone, etc. Puis t'arrives avec tes images et puis tu fais, mais qu'est-ce que je vais en faire? Et donc après, bah, il faut que tu réfléchisses à, voilà, il va falloir créer un produit autour de ça. Donc tu vois en fait la chose très différemment. Tu commences à te dire, bon, bah, alors il y a le côté technique, hein, parce que c'est pas rien non plus. Et puis il y a le côté financier. Il faut aussi mettre... voilà, on aime bien expérimenter. Et puis bah, là, notre dernière lubie, ça va être d'essayer de remplacer le drone par un cerf-volant. Mais le cerf-volant faisait de l'imagerie avant le drone.
Comment ?
Et bah, en fait, il faut des cerf-volants assez stabilisés. Dans notre domaine, il faut que les photos soient... à altitude à peu près égale, que les résolutions ne varient pas trop. Tu peux faire des corrections, tout ça. Mais en fait, il suffit juste d'avoir un truc qui reste à peu près stationnaire, quoi. Donc voilà. Après,
mais avec
c'est
un
juste
déclencheur
une expérience.
Ou...
C'est des gros cerf-volants qu'on veut utiliser, qui sont assez stabilisés, en fait, qui sont assez lourds. Le problème, c'est que ça transporte du matos aussi.
et comment tu fais pour déclencher l'appareil ?
On n'a pas encore réfléchi à cette manière-là, mais ça se fait. Hein.
D'accord, vous êtes donc des
on n'est pas les premiers à le faire.
Ouais. D'accord, vous n'êtes pas les premiers, vous avez quand même un petit côté géotrouve-tout de la géomatique.
Bah après, c'est pas non plus idiot comme approche. En fait, si on a fait du drone, ou si là, par exemple, on peut faire du cerf-volant, c'est aussi une réduction des coûts. C'est-à-dire qu'avant, tous ces trucs-là, ils se faisaient par planeur ou... alors, il y en a qui le faisaient aussi en delta plane, ça arrive. Bon, ça, on s'est pas dit qu'on allait le faire. Mais du coup, pour les petites structures avec lesquelles on travaille, c'est inabordable en termes de coûts. Donc, voilà, c'est pas qu'une idée sur la comète de se lancer là-dedans. C'est aussi une réalité économique et locale.
Et énergétique aussi, parce que mine de rien, le drone, ça se recharge, le cerf-volant...
Oui, également.
Alors, sur votre site, quand on va sur la page activité, on lit « Conseil en géomatique, nous vous proposons un accompagnement personnalisé pour prendre en main les enjeux liés à la géomatique dans votre structure en veillant au bon fonctionnement de vos outils. Études et analyses spatiales, nous vous accompagnons dans la réalisation d'études spatiales complètes adaptées à vos besoins. Visualisation et valorisation des données spatiales, nous vous proposons d'accompagner l'usage, le partage et la diffusion de vos données spatiales. » Alors certainement, quand on en a besoin, ça doit être moins abstrait que quand on n'en a pas besoin. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de projet, peut-être avec une collectivité ou avec un autre type de client qui aurait peut-être réuni et ce conseil en géomatique et l'étude et l'analyse et la visualisation et la valorisation?
Alors bah là, je pense un peu au haut débit alimentaire, qui est un projet en fait qui est un observatoire sur l'alimentation locale qui a été fait avec le Pays de Cambrai en Marche. Donc je précise, c'est un appel d'offres auquel on a répondu avec notre coopérative. Je pense que ça peut être un élément intéressant.
Alors,
à mentionner après.
La coopérative, c'est donc Sésame Oxalis.
Ouais. C'est ça, c'est bien ça. Mais j'en parlerai peut-être un petit peu après. On répond en fait à un cahier des charges sur qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'alimentation locale sur le territoire, quoi, grosso modo. Et donc là, il faut regarder. On a regardé du coup qu'est-ce qu'il y avait comme données, qu'est-ce qu'on pouvait recueillir. Alors on n'a pas fait toute la partie expérimentation. Là, c'est du coup nos associés de la coopérative. Et après, on a monté en fait un observatoire à partir de ces choses-là. Donc, on a fait un accompagnement. On le fait d'ailleurs toujours, en fait. On fait toujours du soutien, notamment quand ça marche pas. Mais c'est pas si souvent que ça, quand même. Et en fait, on a formé les agents à rentrer les données. Donc, tout bêtement, hein, ce genre de choses, c'est localiser en fait les producteurs locaux, les restaurations collectives. Et les mettre en relation, hein, tout simplement. Hein, Voilà, l'observatoire lui-même, il n'est pas plus complexe que ça. Mais il a fallu partir d'un procédé, c'est-à-dire voir ce qui existait, voir ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait récolter, et comment on pouvait aussi l'afficher et pour pouvoir mettre en relation en fait, les gens.
Avec quel logiciel vous avez utilisé pour visualiser toutes ces informations?
Alors là, du coup, on a travaillé avec UMAP, ça s'appelle, qui est un logiciel, en fait, enfin, logiciel, qui est un outil de WebICG, donc de cartographie en ligne.
Voilà. WebICG.
WebICG. Mais on peut dire cartographie en ligne aussi, hein, si on est plutôt francophile.
Alors aujourd'hui, je sais ce que veulent dire OSM et SIG, et ça, c'est super chouette. Alors tu disais que vos collaborateurs partenaires de la coopérative Oxalis avaient été là pour l'expérimentation. En quoi ça...
Alors eux, du coup, c'est des designers territoriaux. Donc, ils sont plus sur le volet aménagement. C'est aussi des géographes, en fait. Alors, pour le coup, ils sont aussi un peu architectes. Ils font ce qu'on appelle donc, du design territorial, qui est une approche, en fait, au lieu de faire un plan et d'essayer de l'adapter, en fait, au territoire, c'est de recueillir, en fait, des interviews, des idées, des gens sur le terrain, de les expérimenter à petite échelle et après de les généraliser. En fait, donc c'est une approche qui me parle beaucoup, si peut-être par rapport à tout ce qui est transmission du savoir. Et donc c'est eux qui ont fait ces expérimentations là. On a fait quelques réunions, mais c'était eux qui ont fait cette partie là.
Donc concrètement, les gens leur ont transmis.
Alors concrètement, en fait, ils ont rencontré par exemple les cantiniers pour savoir déjà quelle est la quantité d'alimentation locale qu'ils ont dans leurs produits, qu'est-ce qu'ils ont comme produits. Donc après, qu'est-ce qu'ils aimeraient bien pouvoir mettre en place, s'ils ont envie de mettre des trucs en place. De l'autre côté, ils ont aussi rencontré les producteurs pour savoir exactement ce qui pouvait être fait. Et après, ils ont mis des trucs ensemble et ils ont réussi à tirer des idées. Donc, notamment à faire des circuits de distribution d'alimentation locale.
Et donc, vous, une fois que vous avez eu ces idées, comment c'est mis en place la forme et surtout, du coup, vous avez pensé à l'usage qui serait fait de cet outil?
L'usage, du coup, il est double. Donc, il y a un côté, donc, je parlais, donc, de faire connaître, en fait, les gens qui font ça et ceux qui en ont besoin, en fait, pour les mettre un peu en relation. Et puis, il y a un côté communication. C'est-à-dire aussi, la collectivité, elle est intéressée de pouvoir montrer qu'elle a fait des choses.
Oui, bien sûr. Mais du coup, tout à l'heure, tu parlais de quantité. Est-ce que, par exemple, c'est pas non plus un outil qui va... Comment dire ?
Révolutionner le monde.
Je pensais pas à ça. Je me disais, c'est pas un outil autonome. Une fois qu'on a rentré que telle école a besoin de tant de patates tel jour et tel mois et que tel producteur a tant de patates, ça se passe pas exactement comme ça.
Alors, c'est-à-dire que faut faire vivre l'initiative. Je peux pas. C'est juste des outils nous qu'on met à disposition. S'il y a personne pour manier une pelle, la pelle, elle va pas creuser toute seule. Hein. C'est pareil. Hein. C'est-à-dire que s'il y a personne pour l'initiative, ça peut pas marcher. Et ça nous a arrivé d'avoir des projets aussi comme ça. Bon, pour le coup, avec cas du haut débit alimentaire, il y avait vraiment une volonté de le faire. Après, des fois, on a des élus qui sont à demi-teinte, et puis on ne peut pas. Ou des fois, c'est aussi des chargés de mission, ça arrive aussi. Hein. Mais bon, là, en fait, nous, on ne fait que répondre, pour le coup, des appels d'offres. On ne peut pas créer la motivation de ce côté-là, en tout cas.
Comment s'intitulait cet appel d'offres ?
Je ne sais plus. C'était sur l'alimentation locale. Mais c'était un de nos premiers projets. Donc celui-là, il commence à dater en termes de réponse à appel d'offres.
Un an, quoi.
Oui, on a quand même d'autres choses qui sont arrivées depuis. Du coup,
j'imagine.
Mais nous, en fait, c'était aussi un peu un truc de provocation, la réponse. Alors là, c'est pas nous qui avons la paternité au niveau de Fractal. Hein. C'est du coup Adrien Demey, avec qui on travaille, donc le designer territorial. qui a fait le haut débit alimentaire. C'est on est sur un territoire rural, on n'a peut-être pas le haut débit, mais on peut avoir le haut débit alimentaire. Donc c'était un peu à la fois un truc de communication et de provocation, ce qui a bien marché du coup.
Ça a dû les faire pas mal rire. Il peut y avoir effectivement une grande fierté à avoir ce haut débit alimentaire. J'ai aussi vu sur votre site la solution cimetière simple libre basée sur QGIS. Alors ça aussi, ça a l'air d'être une plateforme participative.
Alors non.
Ah non. Alors, je n'ai rien compris. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet ?
Alors, QGIS, ce n'est pas une plateforme participative, c'est un logiciel libre. C'est-à-dire que c'est un logiciel comme vous utiliseriez votre LibreOffice, en fait. C'est la différence. Il y en a qui seraient un Word, en fait, en privé, quoi. Du coup, en fait, ça là, c'est d'utiliser en fait deux choses. Donc, QGIS, c'est un peu l'aspect travailler avant sur l'ordinateur. Et après, il y a l'aspect un peu web. Donc là, c'est côté ce qu'on appelle l'ISMAP. Donc là, qui est un projet collaboratif.
Oui, d'accord. Voilà.
Et du coup, en fait, on peut mettre... donc c'était quelqu'un qui a développé ça et qui... maintenant, c'est une communauté qui a développé ça, qui permet de mettre en place notamment des observatoires. Donc c'est souvent ce qu'on utilise. Bon, par exemple, sur le haut débit, bah, c'était pas ça. Donc des fois, on utilise des choses différentes. C'est-à-dire là, c'est un peu plus modelable. C'est-à-dire que UMAP... que je disais tout à l'heure, c'est juste pour montrer l'information, voilà. Pour rentrer un petit peu des trucs, mais on va pas très loin. Parce que sur l'ISMAP, là, c'est quelque chose de plus complet. Donc notamment pour rentrer les informations donc sur les concessions, sur les droits, sur les photos, ce genre de choses.
Est-ce qu'en rentrant en première année de géographie à la fac, tu te disais qu'un jour, tu allais cartographier un cimetière ?
Alors, pas du tout. Mais même quand j'ai lancé l'activité, je ne pensais pas à cartographier un cimetière. Et comme je disais, en fait, à la base, je voulais être aménageur. Et en fait, moi, donc dans les disciplines géographiques, j'ai suivi les cursus d'aménageur. C'est-à-dire que je suis un cartographe par expérience. C'est-à-dire que j'ai, par mes expériences professionnelles, en fait, j'ai acquis la technique en fait, qui permet de faire ces choses-là. Et du coup, j'avais pas du tout vocation à faire de la cartographie à la base.
Mais alors l'aménagement, est-ce que ce serait ce qu'on appelle plus communément l'urbanisme ou pas du tout ?
Alors oui, c'est... Alors en fait, oui, on peut dire urbanisme, mais en fait, urbanisme, c'est plus restrictif qu'aménagement. En fait, aménagement,
oui,
c'est plus large.
Urbanisme, il y a urbain, on peut aménager peut-être une forêt de Douglas.
Voilà. Oui, c'est ça. Après, en fait, même urbanisme, en fait, beaucoup de gens qui s'arrêtent à l'urbain. Et du coup, j'ai un engagement alarmant. Et donc, il y a une petite anecdote comme ça. Donc, il y a une SCIC sur la montagne Limousine qui s'occupe un peu de tout ce qui est foncier, aménagement en milieu rural. Et donc, il y avait des rencontres sur l'urbanisme rural. Du coup, les gens me disent « Mais moi, je veux pas la ville ici !» Alors que, bon, voilà, en fait, c'est un peu aussi une confusion, même au niveau urbanisme, c'est-à-dire que c'est plus large, c'est-à-dire que ça peut aussi être la planification, c'est la planification de la cité, quoi.
Mais qu'est-ce qu'on planifie dans une cité ?
Alors, du coup, le premier plan qui est employé, c'est le plan d'occupation des sols. Alors, maintenant, ça a été modernisé, ça s'appelle un plan local d'urbanisme, simplement pour savoir quelle parcelle, quel espace est dédié à la construction, à l'agriculture, à rester une zone naturelle, ce genre de choses. Parce que si on ne le fait pas, ça devient un peu, je pourrais donner comme anecdote, on voit par exemple sur les littoraux, il y a des littoraux qui ont été complètement... bétonné, en fait, avant qu'il y ait certaines lois un peu restrictives. Donc, c'est des lois d'aménagement. Hein. Donc, la loi, pour ne pas la citer, la loi montagne et littoral, je crois, et qui a permis, après sa mise en place, la préservation de nombreux littorales. Donc, par exemple, si vous allez sur les Sables d'Olonne, hein, vous allez voir tout bétonné. Ça peut avoir aussi son charme, hein, mais après, si vous allez en Corse ou si vous allez en Bretagne, vous allez quand même trouver des littoraux qui sont un peu plus laissés dans leur état naturel.
Donc l'aménagement, ça peut être également le fait de ne pas aménager.
Ah oui, 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 totalement. on rentre un peu dans des questions de ce qu'on appelle de la gestion différenciée aussi, c'est-à-dire qu'on laisse aussi des espaces un peu à la nature.
Mais bon, sans tomber dans des trucs de hippie, simplement, si on laisse la vitesse à laquelle les villes croissent continuer, elles vont juste faire disparaître les milieux agricoles et naturels. Mmh. Donc il était nécessaire, et il l'est toujours, d'avoir une réflexion en fait, sur ces espaces-là.
Mmh, parce que sinon, adieu le haut débit alimentaire.
Voilà, oui. Si, bah après, ça sera de l'agriculture urbaine, mais c'est une forme très différente. On entre dans d'autres questions. Quoi.
Alors, il nous reste quelques minutes. Est-ce que tu veux parler de l'engagement de Fractal au sein de Sésame Oxalis, ou est-ce qu'il y aurait d'autres questions?
Ça peut être intéressant de parler de la coopérative aussi, parce que dans les choix, dans les valeurs qu'on a annoncées, en fait, la coopérative, elle est intéressante. C'est-à-dire qu'on a choisi de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais pas de l'entrepreneuriat tout seul, en fait. On est un peu les enfants de la génération des auto-entrepreneurs, pour ne pas les citer, où en fait, t'es un peu tout seul en fait, derrière son projet. Donc l'intérêt d'être dans une coopérative, donc mon Sésame ou une autre, hein, c'est aussi de ne pas être seul face à son projet. Donc bon, ça peut être très rationnel, hein, ça peut être simplement de ne pas être seul face à ses comptes, voir comment les saisir, avoir des outils, etc. Mais c'est aussi avoir un accompagnement, avoir des gens qui connaissent la même chose que nous. En fait, donc des fois on fait des cafés où on se retrouve entre entrepreneurs pour se dire voilà, moi je rencontre telle difficulté, etc. C'est un peu les entrepreneurs anonymes, quoi.
Ça doit faire du bien.
Oui, ouais. Puis c'est pas des espaces qui existent partout en fait non plus. Et donc il y a ça. Et puis bon, et après il y a aussi une perspective de travailler plutôt en groupe, qui est très intéressante pour notre activité. Comme on l'a vu, en fait, on peut travailler aussi bien sur des cimetières, sur des inventaires naturalistes, sur de l'alimentation locale, de la mobilité. Mais en fait, nous, on n'est pas des experts de ces domaines-là. Donc on a besoin de travailler avec des experts. Et dans la coopérative, il y a ces experts-là, en fait. Et du coup, ils font appel à nous. Donc par exemple, au Odémi, c'était typiquement le cas. Donc c'est un ménageur du coup, qui avait besoin aussi de l'aspect plutôt cartographie et qui est capable de faire certaines choses, mais nous, on est aussi capable de le faire mieux et plus vite. Voilà. Donc c'est pragmatique.
Donc vous êtes plus forts tous ensemble.
Voilà, c'est une logique de synergie.
Quels sont les projets en cours
autre que le le cerf-volant? Là, en fait, on est vraiment en train de
travailler le cerf-volant. Est-ce que vous avez un projet de cartographie qui nécessite l'usage de ce cerf-volant?
Alors, en fait, c'est de transformer notre produit justement sur la gestion des cimetières pour réfléchir à... En fait, c'est aussi qu'on travaille en fait, avec des pilotes de drones. Je ne l'ai pas précisé, ce n'est pas nous qui faisons du drone. Parce que c'est une activité réglementée. Donc voilà, c'est eux qui se chargent de ça.
Ça doit être tellement frustrant.
Et de tout maîtriser, c'est plus simple aussi pour faire un produit. C'est-à-dire que voilà, il y a un côté puis c'est moins cher. Donc on va expérimenter là-dessus. Après, on verra si ça marche ou si ça marche pas. Hein.
Et sur la cartographie des concessions, donc.
Oui, sur la cartographie des concessions de cimetière. Voilà. Et du coup, donc on est aussi beaucoup là en train de travailler sur les inventaires naturalistes. Du coup, on travaille avec un collègue qui vient juste de rentrer dans la coopérative. Cyril Laborde, et on a vraiment très envie de se lancer en fait dans, c'est de la technique, hein, mais c'est des outils pour faire des inventaires naturalistes, mais sur le terrain, qui soient du coup pas déconnectés en fait, c'est-à-dire qu'il y a toujours un problème entre le moment où tu saisis sur le papier et le moment où tu saisis à froid, ce qu'on dit du coup, et aussi par rapport au protocole à utiliser quand on est plusieurs dans une équipe, ce genre de choses. Donc voilà, on est en train de déployer tout un truc de serveur et tout pour faire ça. Voilà, truc de geek, là, totalement.
Je pense que vous touchez votre bille en geekerie. Vous aurez une petite médaille de Radio Vassivière. Le jour où Radio Vassivière aura besoin de cartographes, il n'y a aucun doute, nous ferons appel à vous.
Juste aussi pour préciser, quand même, on fait quand même aussi des formations sur le discours cartographique. Enfin, ouais, il n'y a pas que des choses de geek, hein, dans la cartographie.
Justement,
dans ce qu'on fait.
J'allais parler de la formation à la cartographie mentale, qui pour le coup sort complètement d'un imaginaire imagerie geek, entre guillemets, en fait. Je tiens à rappeler aux auditeurs que nous avons utilisé ce mot avec des guillemets pendant toute l'émission.
Oui, parce que en fait, on n'est pas non plus des informaticiens, faut le rappeler. C'est pas la même chose. Et donc oui, il y a aussi des choses qui portent vraiment sur l'abstraction, en fait, en cartographie. On travaille aussi beaucoup sur des concepts, ce genre de choses. Et donc, pour donner un exemple concret, on a fait des choses sur la cartographie du corps, en fait, pour travailler avec les gens pour voir comment ils se représentaient eux-mêmes. On a aussi des choses qui portent un petit peu sur tout ce qui est comment dire sur la cartographie des perceptions, voilà. C'est-à-dire que comment on va représenter, comment un enfant représente, en fait, par exemple, l'espace. Ça, c'est assez intéressant. Nous, on l'a pas fait, mais c'est un exemple. Il y avait une carte, j'habitais à Rennes, où on avait demandé à des enfants d'un quartier populaire, en fait, de dessiner leur ville. Et ce qu'ils avaient dans l'idée. Donc c'était assez marrant de voir, forcément leur quartier était bien représenté, mais les chemins, en fait, où ils pouvaient aller et tout ça. Et là, en plus, comme c'était des enfants, le filtre n'y était pas, quoi. C'est-à-dire que c'était la réalité. C'est-à-dire, là, ils y allaient, là, ils y allaient pas. Là, ils s'imaginaient que c'était ça, ce genre de choses. Là, on est vraiment dans la perception. Là, il n'y a plus de métrique du tout. C'est-à-dire que on n'est pas dans la carte hygiène, etc. Pourtant, elle a une utilité. Elle montre quelque chose, cette carte. Et elle est assez parlante. Pour ceux qui vont regarder sur Rennes, c'est la carte Dublon qui était faite par les enfants.
La carte Hublone, comment tu l'écris ?
Dublone, Blosne.
Merci. Alors là, c'est effectivement le moment où on touche à toute la richesse de la géographie qui va être de l'ordre de la représentation, de l'ordre de la cartographie, de l'ordre... un outil qui peut être utilisé à des fins extrêmement différentes comme... sociaux...
Arrêtez de faire la guerre avec.
Arrêtez. Oui, c'est vrai, on peut faire tellement de choses beaucoup plus jolies avec des cartes. Et bien, sur ces belles paroles, merci beaucoup, Rémi, d'être venu jusque dans les studios de Radio Vassivière, qui sont loin de Fractal, qui se trouve à Jansieu-Pigerolles.
Moi, j'habite presque en bas du studio de Radio Vassivière.
Ça, les auditeurs n'avaient pas besoin de le savoir. Donc, pour contacter Fractal, comment on fait ?
Alors, donc, on a une adresse de contact, en fait, qui s'appelle contact@fractal.xyz. Vous étiez très fiers de notre extension.
elle est très jolie, ça, il n'y a aucun doute. contact@fractal.xyz.
Voilà. Et après, vous pouvez, sur le site, vous trouverez ce contact-là pour pouvoir y accéder.
Quand sont les prochaines formations de Fractal, s'il y en a prochainement ?
Eh ben, la semaine prochaine, on forme quelqu'un pendant 4 jours. Et du coup, le vendredi, on a aussi 2 autres personnes en même temps.
C'est une formation sur quoi ?
Alors la première, c'est prise en main du logiciel QGIS, là, du coup, donc c'est la cartographie lambda, quoi. Et puis pour l'autre, c'est plus à destination d'aménageur, en fait, d'être capable, en fait, de faire ce qu'on appelle des gros mots, de l'édition topologique, c'est-à-dire de pas mettre ses carrés au-dessus des autres quand on fait des cartes. Ce qui pose souci après quand on fait des traitements. Ça peut paraître anecdotique, mais ça peut être très pénible à faire quand on ne sait pas.
Une vraie formation technique, donc. Voilà. Ben, pour redécouvrir toute la richesse de Fractal, vous pouvez aller visiter le site
fractal.xyz.
C'est merveilleux. Merci beaucoup, Rémi.
Merci à bientôt. À toi, Lorraine.